Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal de midi. Au micro, Lievine Bouinga. D'abord, les titres de ce journal. Dégradation du système éducatif dans le Nord et Sud Kivu. La ministre de tutelle exprime son angoisse. Au moins 2600 écoles fermées et plus d'un million d'enfants sortis du circuit scolaire, déplore Raïssa Malou en cette période de guerre. La ministre s'est exprimée hier mardi à Kinshasa lors du briefing de presse. Et puis alerte aux avancées des érosions dans la cité de Kasongo-Lunda, province du Kwango. Cri d'alarme lancé par l'administrateur de ce territoire qui note plusieurs maisons des particuliers déjà englouties. Notre invité est le colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu. Il va aborder les problèmes de discipline au sein de l'armée. Il va aussi souligner l'importance des audiences foraines tenues récemment au Nord Kivu et leur visée. À suivre donc dans un instant. Ouvrons ce journal par cette inquiétude de la ministre d'État en charge de l'économie nationale. Raïssa Malou a en effet exprimé son indignation face à la dégradation du système éducatif dans le Nord et Sud Kivu à la suite de la guerre d'agression. La ministre a rapporté cette information hier mardi lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya ici à Kinshasa. Elle a en outre déploré la fermeture d'au moins 2600 écoles et la sortie de plus d'un million d'enfants du circuit scolaire en cette période trouble dans ces provinces sous occupation rebelle. Écoutez la ministre de l'Éducation nationale, les propos de Raïssa Malou sont recueillis par Blaise Chindani Kambala.
Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a les écoles qui sont occupées par les populations déplacées. Et donc, et on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. Et on a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une.
Dans sa réplique à la presse, la ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs assuré avoir pris des dispositions pour le respect du calendrier scolaire, même dans les provinces éducationnelles sous occupation. Une autre conséquence de la guerre d'agression qui sévit dans l'est de la RDC, ce sont près de 80 000 hommes, femmes et enfants du pays qui ont fui vers les pays voisins à la suite de ce conflit, dont environ 61 000 sont arrivés depuis janvier dernier au Burundi. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a livré ces statistiques hier mardi 4 mars lors d'un briefing organisé à New York aux États-Unis d'Amérique. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon Stéphane Dujarric, autour de Goma, environ 17 000 personnes restent dans des sites de déplacement, des écoles, des églises, tandis que 440 000 autres se déplacent depuis 4 semaines en vue de retourner dans leur village d'origine. Il a cependant précisé que le retour de ces personnes a été obligé par les rebelles du M23 qui contrôlent désormais cette contrée. Au moins 209 personnes déplacées sont arrivées spontanément dans les territoires de Masisi, Nirangongo et Rutshuru où les services de base ne sont pas équipés pour faire face à cet afflux soudain des populations, a fait remarquer Stéphane Dujarric. Compte tenu de l'insécurité généralisée dans les Nord et Sud Kivu, ces hauts fonctionnaires des Nations Unies a rappelé que de nombreuses autres personnes pourraient devoir franchir les frontières pour trouver protection et assistance. Pour sa part, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle les États à enregistrer tous les demandeurs d'asile en provenance de la RDC et à leur fournir des documents.
En ce qui concerne le dénouement de cette crise de l'Est de la RDC, elle nécessite une solution politique et non militaire. En tout cas, c'est ce que propose ce mercredi à Kinshasa dans une déclaration le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, qui vient de terminer une tournée dans la région au cours de sa mission. Justement, il a rencontré le président rwandais Paul Kagame à Kigali avant de rencontrer le président Félix Tshisekedi ici à Kinshasa. Il dit avoir exhorté les deux chefs d'État à se concentrer sur le bien-être de leur peuple en privilégiant le dialogue pour résoudre le différend qui oppose les deux nations. Il a enfin rappelé l'opposition de l'Union européenne au soutien militaire du Rwanda aux rebelles du M23. Johan Borgstam est au micro de Ronly Ntimbonera.
Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont condamnés dans un sens à travailler pour établir un terrain d'entente. C'est une responsabilité des deux gouvernements envers les deux peuples, le peuple congolais et le peuple rwandais. Je dirais que par rapport aux processus régionaux en cours, comme vous savez, peut-être l'Union européenne soutient fortement les processus régionaux. Donc nous, on prend toujours ce qu'on appelle des solutions africaines pour les problèmes africains. J'aimerais quand même ajouter l'importance pour les organisations régionales d'éviter confusion par rapport à l'encadrement de ces négociations.
Bonne nouvelle pour les victimes de guerre dans le Nord Kivu. Au moins 500 poches de sang et plusieurs intrants vitaux pour couvrir le besoin urgent de la population ont été réceptionnés hier mardi 4 mars par les responsables sanitaires à Goma. Un geste de l'Organisation mondiale de la santé qui a facilité l'acheminement de cette aide humanitaire collectée à Kinshasa par le ministère de la Santé. Thierry Mobalde, responsable de l'OMS qui a réceptionné cette cargaison à la grande barrière entre Goma et Gisenyi, l'a à son tour remise à la coordinatrice provinciale du centre de transfusion sanguine au Nord Kivu, Merveille Roubakari. Suivons tour à tour les impressions de ces deux responsables dans cet extrait choisi par Sifa Magoro.
L'utilité du sang, c'est pour subvenir aux besoins de malades nécessiteux qui ont besoin du sang au niveau des structures hospitalières. Ça sera utile au niveau de Nord Kivu ainsi que du Sud Kivu.
Les efforts qui ont été faits depuis maintenant 3 semaines par l'Organisation mondiale de la santé pour les transporter par plusieurs endroits nous arrivent ici aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous et nous espérons qu'ils seront utilisés de façon efficace, de façon efficiente pour continuer à sauver la vie.
L'OMS a reçu la semaine dernière 14 tonnes de médicaments pour répondre aux besoins sanitaires des personnes vulnérables. 3 morts, plusieurs maisons cambriolées et de l'argent volé. L'insécurité se porte toujours bien à Bukavu. L'avenue Pageco au quartier Ndendere était la cible de plusieurs attaques par des hommes armés cette nuit à Bukavu. Des éléments du M23 qui contrôlent la ville sont intervenus et ont réussi à chasser les présumés bandits. Des témoins sur place renseignent que c'est lors de l'intervention que les 3 personnes ont succombé. Ce matin, la Croix-Rouge a été mise à contribution pour évacuer les corps des victimes. Ici à Kinshasa, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a procédé depuis la semaine dernière à des auditions des membres du gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. 5 membres de l'exécutif national étaient devant cette commission. Il s'agit notamment des vice-premiers ministres et ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la ministre d'État des Affaires étrangères, ainsi que des ministres des Finances et du Budget. Au cours de l'audition d'hier mardi, Jacquemain Chabani de l'Intérieur et sécurité a rencontré toutes les préoccupations des députés, souligne le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Suivez les explications de Rubin Mikindo. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
C'était une occasion pour nous de poser des questions aux différents ministres. Qu'est-ce qui s'est passé, surtout lors des derniers affrontements au niveau de Goma? Goma est passé sous le contrôle du Rwanda aujourd'hui. Nous avons aussi la chute de la grande ville de Bukavu. Et tout ça, on voulait comprendre. Et aussi, si nous avons invité la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est pour comprendre un peu comment les choses évoluent, bien qu'aujourd'hui, tout le monde estime qu'il faut jeter des fleurs au ministre des Affaires étrangères. Le ministre du Budget, ministre des Finances aussi, c'était pour comprendre toute la chaîne de dépenses. C'était vraiment l'occasion pour poser des questions. Et puis, c'était le tour de ministre de commencer à répondre aux questions des députés. Aujourd'hui, c'est le tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Maintenant, il reste les deux ministres, le ministre du Budget et le ministre des Finances, qui vont finalement répondre aux questions des députés. Je crois que dans les 48 ou 72 heures, ça sera chose faite. Et au finish, ces rapports, nous allons les présenter à notre bureau. On va étoffer aussi des recommandations de notre commission. Ça sera à notre bureau, au niveau de l'Assemblée, de pouvoir décider sur la suite.
L'actualité, c'est aussi la cité de Kasongo-Lunda, dont la province du Kwango, fortement menacée par des érosions. Elles ont déjà détruit plusieurs maisons des particuliers, selon l'administrateur de ce territoire, qui lance l'alerte. Plus de 10 grandes têtes d'érosion sont signalées, situation qui a laissé plusieurs familles sans abri, affirme Arsène Koukangidila. Il en appelle ainsi à l'implication du gouvernement, tant provincial que national, pour les travaux de lutte anti-érosive, afin de sauver cette population. Arsène Koukangidila, administrateur du territoire de Kasongo-Lunda, l'a dit à Irène Mboma Luzolo. On l'écoute.
Le territoire de Kasongo-Lunda rencontre beaucoup de difficultés, notamment le problème d'érosion. Le chef-lieu est situé sur un site érosif. En tout cas, c'était un grand problème avec les érosions. On se débrouille avec des sacs, tout ça, mais ça demande une intervention au niveau provincial et même national. On est sur un site érosif et ce sont de grandes érosions, de grandes têtes d'érosion que nous avons. C'est plus de 10 grandes têtes d'érosion sans compter les petites. C'est là seulement dans la cité de Kasongo-Lunda. Il y a des menaces de destruction de bâtiments, pas de bâtiments officiels, mais les maisons des gens, des populations qui sont dans les périphéries. Il y a des maisons qui sont déjà tombées et qui sont déjà écroulées. Et les familles se déplacent. On demande l'implication de la province et même du gouvernement central pour protéger les maisons et les ménages. Donc, nous sollicitons l'intervention de la province et même du gouvernement central pour venir à la rescousse de la population de Kasongo-Lunda.
L'Organisation mondiale pour les migrations, au chevet de la police nationale congolaise à Kalemi, cette organisation a remis officiellement à la police des infrastructures modernes, notamment un commissariat de référence, 4 sous-commissariats, quelques Jeep Land Cruiser, des motos et des matériaux et de matériel de bureau. C'était hier, mardi, à l'occasion de la clôture de la formation sur la police de proximité. Le point avec Paulin Munanga.
Ces projets visent l'amélioration des conditions de travail de la police, la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive après le départ de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Ils sont financés conjointement par les gouvernements du Japon à travers l'Agence de coopération internationale et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Concernant les 4 sous-commissariats de la police, ils ont été construits dans la ville de Kalemi, dans les territoires de Kalemi, Nyunzu et Kongolo. Dans le cadre de la professionnalisation de la police de proximité, 120 élèves viennent d'achever une formation de 6 mois. Ils ont suivi des cours sur des matières liées aux droits humains visant à rendre la police nationale plus professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Pour rappel, cette promotion de la police de proximité est la toute première dans la province du Tanganyika. La société civile et les membres du comité local de sécurité plaide pour la continuité de la formation de la police afin d'améliorer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Tanganyika.
Actualité internationale.
Énorme feu de forêt en cours au Japon. Des pompiers japonais poursuivent depuis mardi 4 mars leur combat contre les flammes du plus grave incendie que le pays insulaire de l'Asie de l'Est ait connu en 50 ans. Un sinistre ayant fait au moins une victime et entraîné l'évacuation de près de 4000 habitants.
L'invité.
Notre invité, le colonel Mac Azoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu. Il aborde les problèmes de discipline au sein de l'armée et souligne l'importance des audiences foraines tenues récemment à Moussienene, dans la région de Butembo et à Lubero, au Nord Kivu. Selon lui, ces audiences devraient servir d'exemple à certains militaires qui, au lieu de défendre la patrie, sèment la terreur parmi la population. Le colonel Azoukai assure que même ceux qui ont fouillé au-delà de la province du Nord Kivu seront recherchés pour répondre de leurs actes. Le colonel Azoukai s'entretient ici avec Guylaine Kassassia.
Colonel Mac Azoukai, bonjour.
Bonjour.
Les comportements de certains soldats des FARDC inquiètent malgré la tenue des audiences pour juger ceux qui ont commis des viols, violences et pillages. La situation ne change pas dans plusieurs cités de Lubero comme Lutu, Masereka et ailleurs. Comment expliquez-vous cette indiscipline de certains éléments qui, au lieu de sécuriser les populations, sèment terreur et désolation?
Madame, je ne saurais vous expliquer le comportement ou le manque d'éducation dont certains militaires ont fait montre durant ce temps. Il est vrai que ces jeunes gens ont fait la honte de l'armée. Ils ont enlevé l'essentiel de la profession, l'âme de l'armée. Ils ont violé le règlement qui régissent l'armée. L'armée, c'est la discipline. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, je ne sais pas comment on peut parler d'une armée. Heureusement que ce sont des brebis galeuses. Nous saisissons l'occasion pour présenter nos excuses aux victimes et à la population tout entière qui a été traumatisée par le comportement de certains militaires que nous avons déférés devant la justice. Ces audiences ne sont qu'au début parce qu'ils sont nombreux. Hier, c'était une soixantaine à être jugés, 55 condamnés à mort. Mais ils sont encore nombreux à vagabonder, si vous me permettez de dire ça, dans la ville, dans certaines localités. J'ai ouï dire qu'il y en a qui ont déjà atteint Kisangani. Mais la machine judiciaire est déjà activée pour traquer tous ces gens-là. Et ils vont répondre de leurs actes.
Comme vous parlez des audiences, visiblement, ces dernières, censées servir d'exemple à la troupe, semblent ne pas suffire ni avoir d'effet dissuasif sur certains militaires. L'armée et les militaires seraient-ils devenus incontrôlables car ces actes d'indiscipline et de violence sont enregistrés dans de nombreuses localités du Grand Nord Kivu?
Moi, je pense qu'on ne doit pas généraliser ce qui vient de se passer. Vous dites que les audiences ne vont pas résoudre les problèmes, mais c'est un processus. On vient de prononcer les sentences. Voyons comment on va exécuter ça. Et la suite, ça va venir. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que au moins, ces brebis galeuses seront mises à côté.
Et alors, dans le même cadre, avec ce type de comportement de certains de vos soldats, ne craignez-vous pas que la population perde confiance à son armée, alors que vous ne cessez de demander à cette même population de faire confiance au FARDC, de collaborer avec elle pour lutter contre les groupes armés locaux et étrangers?
C'est vrai que nous-mêmes ne sommes pas contents de ce qui vient de se produire, mais cela ne peut pas nous décourager. Il y a encore des militaires éduqués, instruits, qui tiennent le front. C'est vrai que le mariage est affecté. Nous allons faire un effort pour essayer de coller les morceaux. Le patriotisme, c'est aussi ça. Je terminerai par vous dire, madame, que faut envoyer des enfants bien éduqués dans l'armée. L'armée n'est pas une poubelle. Moi, je pense qu'un enfant qui est bien éduqué chez lui ne peut pas venir commencer à casser des portes et prendre de la peine déjà, voler les poules de gens. Ils mangeaient, ils ont à manger, ils ont des médicaments, nous ne savons pas pourquoi ils ont posé ces actes-là. Si ce n'est pas un problème d'éducation de base.
Colonel Mac Azoukai, dans une ville comme Beni, de plus en plus de faits militaires sont découverts par les habitants. Les armes circulent librement. Certains militaires qui ont fui les lignes de France et retournent contre la population dans d'autres localités. Que fait l'armée pour récupérer ces soldats fuyards et empêcher les violences contre la population?
Je crois qu'il y a une commission qui est mise en place pour traquer tous les fouillards. J'invite la population à coopérer avec la police militaire et les instances judiciaires de l'armée. Pour les gens qui sont en train d'abandonner les tenues, les armes à gauche et à droite, et que la population nous aide à les amener auprès des autorités militaires pour qu'on puisse les remettre à l'armée.
Colonel Makazukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Seboujangwe, à Élisée Chikota et à Mimi Kindou. Bon après-midi à toutes et à tous.